Le film Le Titanic retrace bien les derniers moments du navire. Alors qu'il s'enfonce au large de Terre-Neuve dans les eaux glacées de l'Atlantique, on l'entend gémir. Entre les explosions, des bruits à la fois grinçants et plaintifs couvrent les cris des passagers qui périssent. La scène est effroyable et poignante, et c'est aussi une bonne description de la fin du royaume de Juda. Son agonie a commencé, et rien ne pourra l'arrêter car sa destruction a été décidée par l'Éternel. Je continue à lire dans le chapitre 7 du livre d'Ézéchiel. On sonnera du cor et l'on se tiendra prêt, mais aucun n'ira au combat, car ma colère menace cette foule. Au dehors de la ville, c'est l'épée qui sévit. Au dedans, c'est la peste et la famine. Celui qui est au champ périra par l'épée, et celui qui est dans la ville, la peste et la famine le feront succomber. Verset 14. Les préparatifs militaires seront vains à cause de la décision de l'Éternel de détruire Jérusalem et le royaume de Juda. Je continue plus loin. Ils porteront des habits de toile de sac et la frayeur les saisira, la honte se lira sur chacun des visages, toutes les têtes seront rasées. Ils jetteront dehors leur argent dans les rues et considéreront leur or comme souillé, car ni l'argent ni l'or ne pourront les sauver au jour de la colère de l'Éternel, ni apaiser leur faim. Ils ne satisferont aucun de leurs désirs, car c'est l'argent et l'or qui les est fait. C'est l'argent et l'or qui les ont fait tomber dans le péché. Ils ont mis leur orgueil dans leur parure magnifique et ils s'en sont servis pour fabriquer des idoles abominables et exécrables. Versets 18 à 20. Les marques de deuil et d'affliction seront partout et à cause de leur grande détresse, les Israélites n'auront plus goût à rien, au point où ils jetteront même tous les objets précieux qu'ils avaient acquis par cupidité, qui faisaient leur gloire et avec lesquels ils se fabriquaient des idoles. Je continue. C'est pourquoi tout cela, je le rendrai impur, je le donnerai à des étrangers pour qu'ils le pillent comme butin aux méchants de la terre qui viendront le souiller. Je détournerai d'eux ma face et l'on profanera mon trésor. Des brigands y pénétreront et le profaneront. Versets 20 à 22. Le temple de l'Éternel sera profané et détruit. Toutes les richesses du royaume, dont le trésor du temple, seront pillées par les envahisseurs. Ces événements qui sont arrivés il y a plus de 26 siècles ne sont rien comparés à ceux qui auront lieu lorsque la grande Babylone commerciale, décrite dans le livre de l'Apocalypse, sera détruite. La civilisation occidentale dépend du monde des affaires et du succès des bourses. Les opérateurs, les courtiers, les cambistes portent des costumes à 1000 ou 2000 euros pièce et les gouvernements s'assurent que les riches s'enrichissent toujours davantage. Mais un jour, tout cela va être mis à plat, va descendre en flammes, monter en fumée et être transformé en cendres. Je continue avec la fin du royaume de Juda. Fabriquez-vous des chaînes, car le pays est plein de crimes et la ville est remplie de violence. Verset 23. Il s'agit à la fois des crimes de sang et des transgressions de la loi. Ceux qui auront survécu au massacre seront déportés. Les captifs étaient littéralement conduits, enchaînés, ce qui apparaît clairement dans le livre de Jérémie. Je continue le texte plus loin. Désastre sur désastre viendront les submerger. Il y aura un afflux incessant de mauvaises nouvelles. Ils solliciteront en vain quelques révélations de la part du prophète. La loi fera défaut aux prêtres et les responsables du peuple seront dépourvus de conseils. Verset 26. Le prophète revient au dernier jour du siège de Jérusalem. Les mauvaises nouvelles se succéderont à un rythme rapide. Dans ces circonstances fâcheuses, le peuple s'adressera aux trois sources du pouvoir qui structuraient l'État théocratique israélite. Les prophètes, mais ils n'auront plus de vision. Les prêtres, interprètes de la loi, mais ils n'y trouveront aucune consolation. Le conseil des sages, qui dirige la nation, mais ils n'auront aucune direction à donner. Je finis le chapitre 7. Le roi prendra le deuil et le prince sera revêtu des habits des temps de malheur. Le peuple du pays aura les mains tremblantes. C'est d'après leur conduite que je les traiterai et je les jugerai selon ce qu'ils méritent, et ils reconnaîtront que je suis l'Éternel. Verset 27. toujours le même refrain menaçant. Le jugement que méritaient les Israélites idolâtres est tombé. Le royaume de Juda, Jérusalem et le Temple sont détruits par les Babyloniens. Ce chapitre est écrit sous forme poétique, mais il n'en est que plus déprimant. À le lire, il est facile de comprendre pourquoi ce passage ne fait pas partie des lectures favorites des croyants. Cependant, il est inséré dans les Écritures qui sont toutes inspirées de Dieu. En conséquence, si on veut être juste, il faut accorder à Ézéchiel un temps d'écoute suffisant afin d'entendre ce qu'il veut nous dire concernant la gloire et la sainteté de Dieu. Les chapitres 8 à 11 sont le récit d'une nouvelle vision d'Ézéchiel dans laquelle il est transporté à Jérusalem. Son expérience est identique à celle qu'auront plus tard les apôtres Paul et Jean. En parlant de lui-même, Paul dit, et je résume le passage, « Je connais un homme qui a été enlevé jusqu'au troisième ciel. Était-ce dans son corps, je ne sais, ou sans son corps, je ne sais, mais Dieu le sait. Je sais seulement que cet homme a été enlevé au paradis et qu'il a entendu des paroles qu'on ne peut pas répéter parce qu'il n'est pas permis à un homme de les dire. » Cet événement a eu lieu quand Paul fut lapidé et laissé pour mort. Puis il semble que Dieu l'ait ressuscité. Jean aussi a eu une expérience similaire. Il dit « Je vis une porte ouverte dans le ciel et la voix que j'avais entendue me parlait au début et qui résonnait comme une trompette me dit « Monte ici et je te montrerai ce qui doit arriver après cela ». À l'instant, l'Esprit se saisit de moi et voici, il y avait un trône dans le ciel et sur ce trône, quelqu'un siégeait. » Cette ascension de Jean est une image, en quelque sorte, de l'enlèvement de l'Église quand tous les vrais croyants rencontreront Jésus-Christ dans les airs. Au début du livre de l'Apocalypse, il est souvent fait mention de l'Église, mais après cette expérience de l'apôtre Jean, elle n'est plus mentionnée parce qu'elle est partie pour aller aux noces de l'agneau dans le royaume des cieux. Ici, Ézéchiel est transporté en esprit dans le temple de Jérusalem où il voit d'abord une idole érigée devant la porte du parvis intérieur. Puis, il est témoin de trois cérémonies païennes célébrées l'une par les responsables de Juda, la seconde par les femmes et la troisième par les chefs des prêtres. Cette première partie de la vision expose l'état moral et spirituel dégénéré de tout le peuple. Et c'est aussi l'acte d'accusation qui entraîne la sentence de mort dont l'exécution est décrite dans le chapitre suivant, qui est la deuxième partie de la vision. En troisième lieu, le prophète décrit le départ de l'Éternel. On y voit le symbole visible de sa gloire se déplacer successivement du lieu très saint au seuil du temple, puis du seuil à la porte orientale du parvis, et enfin de cette porte hors de la ville, vers l'est, et sur la montagne des Oliviers. Ces départs successifs de l'Éternel, qui s'éloignent progressivement du temple, sont entrecoupés de menaces contre les habitants de Jérusalem et de promesses en faveur de ceux qui sont exilés. Ensuite, le prophète revient sur terre, pour ainsi dire, et raconte aux captifs tout ce qu'il vient de vivre. Cette révélation, qui est l'une des plus impressionnantes du livre d'Ézéchiel, est facile à comprendre. On y apprend par ailleurs que les Israélites, qui étaient encore en terre d'Israël, se croyaient supérieurs à leurs compatriotes déportés et en plus, ils les méprisaient. Les exilés, par contre, se croyaient abandonnés de Dieu et enviaient leurs frères restés sur le sol de la patrie. Par la bouche d'Ézéchiel, Dieu veut remettre les pendules à l'heure en rabattant le caquet des uns et en relevant l'esprit abattu des autres. Je commence à lire le chapitre 8. Le cinquième jour du sixième mois de la sixième année, j'étais assis chez moi et les responsables du peuple de Juda étaient assis devant moi. Soudain, la main du Seigneur, l'Éternel, tomba sur moi. Verset 1. Nous sommes en septembre-octobre 592 avant Jésus-Christ, soit un peu plus d'un an après la vocation du prophète. Les responsables étaient les chefs de la colonie exilée. Je continue. Je regardais et je vis un être qui ressemblait à un homme. En dessous de ce qui semblait être ses reins, c'était comme du feu et au-dessus, il y avait comme l'éclat d'un métal. Verset 2. Comme précédemment, le prophète prend grand soin de ne pas décrire l'Éternel autrement que d'une manière vague, car ce qu'il voit n'est pas Dieu lui-même. En effet, Dieu est esprit Il n'a ni main ni pied comme vous et moi, cependant, les Écritures utilisent toujours des termes qui se rapportent à nous pour décrire le monde spirituel. Je continue. Cet être tendit une forme de main et me saisit par une mèche de mes cheveux, et l'Esprit me souleva entre ciel et terre et me transporta dans une vision divine à Jérusalem, à l'entrée de la porte du parvis intérieur du temple, celle qui est tournée vers le nord où se trouve la statue de la provocation, celle qui provoque l'Éternel qui ne tolère aucun rival. Verset 3. L'idole ne se trouvait pas dans l'intérieur du sanctuaire même, mais à son entrée, côté nord. Cette idole est appelée statue de jalousie ou de provocation, une expression empruntée au second des 10 commandements où il est dit « Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux ». C'est à cause de cette jalousie que les prophètes décrivent l'idolâtrie comme un adultère spirituel. L'addition du verbe « provoquer » dans la phrase « qui provoque l'Éternel, qui ne tolère aucun rival » fait ressortir avec force le sentiment d'indignation qu'éprouve l'Éternel à la vue de l'idole. Son identité n'est pas indiquée, mais c'était une statue soit du dieu Tammuz, dont il est question plus loin, soit de la divinité féminine cananéenne Asherah ou Astarté que le très mauvais roi Manassé avait dressée dans le temple et que le bon roi Josias avait enlevé par la suite. Je continue. « Et voici que la gloire du Dieu d'Israël m'apparut là exactement comme je l'avais vu dans la plaine. Et il me dit, « Fils d'homme, lève les yeux du côté du nord. » Je levai les yeux du côté du nord et voici qu'au nord de la porte de l'autel, cette statue de la provocation se dressait dans l'entrée. Il me dit encore, « Fils d'homme, vois-tu ce qu'ils font ? Regarde les pratiques si abominables que les Israélites commettent en ce lieu pour m'éloigner de mon sanctuaire. Mais tu en verras encore de plus graves. » Versets 4 à 6. Comme les cultes idolâtres étaient pratiqués en présence de la gloire de l'Éternel, elles n'en étaient que plus abominables, et Dieu est très irrité. Je continue. Puis il me conduisit à l'entrée du parvis, et je vis qu'il y avait un trou dans le mur. Verset 7. Ézéchiel se trouve maintenant à l'entrée ouest du parvis extérieur. Le trou dans le mur était une petite fenêtre qui donnait sur une pièce adjacente dont se servaient les employés du temple. Je continue. Et il me dit, « Fils d'homme, perce la muraille. » Je la perçai et une porte apparut. Il me dit, « Entre et regarde les horreurs abominables qu'ils commettent ici. » Versets 8 et 9. Ézéchiel doit faire une large ouverture dans la muraille afin d'accéder à la porte qui s'ouvre sur la chambre des idoles. Les responsables du peuple passaient par une entrée secrète pour venir pratiquer leur culte idolâtre dans la clandestinité. Ézéchiel se trouve quelque part entre ciel et terre. Il a bien percé la muraille et vu le spectacle idolâtre, seulement ces événements se sont passés à un autre niveau de réalité que celui où nous vivons. Je continue. J'entrai et je regardais, et voici que je vis dessinées sur la paroi tout autour toutes sortes de représentations de reptiles et de bêtes répugnantes et toutes les idoles de la communauté d'Israël. Verset 10. Il s'agit de divinités d'origine égyptienne, formellement interdites par la loi, dont le culte se célébrait dans des lieux très sombres. En adorant les créatures au lieu du Créateur, les Israélites étaient descendus aussi bas que les nations païennes. Pourtant, les plaies d'Égypte, par lesquelles l'Éternel avait délivré son peuple des griffes du Pharaon, avaient été dirigées spécifiquement contre ces fausses divinités qui ornaient la paroi. La conduite des chefs du peuple est inqualifiable. D'une certaine manière, ils sont retournés en Égypte afin de s'adonner à l'idolâtrie qui y était pratiquée. Je continue. 70 hommes responsables de la communauté d'Israël se tenaient debout devant les idoles. Chacun d'eux avait en main son encensoir d'où s'élevait le parfum d'un nuage d'encens et Yahazania, le fils de Shaphan, se trouvait au milieu d'eux. Verset 11. Toute l'élite de la communauté est au rendez-vous. Non seulement ces hommes sont idolâtres, mais en plus, ils se prennent et agissent comme des prêtres, ce qui augmente d'autant plus leur culpabilité. Chafan avait été ministre du roi pieux Josias et avait œuvré avec lui afin d'extirper l'idolâtrie du royaume, et son frère avait sauvé Jérémie de la mort. Le venin de l'idolâtrie avait donc atteint les familles les plus fidèles à l'Éternel. La nation était véritablement corrompue jusqu'à la moelle et donc mûre pour le jugement. Je continue. Le Seigneur me demanda, « As-tu vu, fils d'homme, ce que les responsables du peuple d'Israël font en cachette, chacun dans l'obscurité, chacun dans la chambre de son idole, car ils se disent, l'Éternel ne nous voit pas, l'Éternel a quitté le pays ?» Verset 12. Ce qu'Ézéchiel observe en cet endroit n'est qu'un exemple de ce qui se passait dans les autres pièces annexes au sanctuaire ou dans les appartements privés des chefs du peuple. Ceux-ci se justifient en disant « L'Éternel ne nous voit pas, l'Éternel a quitté le pays ». Aujourd'hui, c'est pareil. Bien des gens prétendent que Dieu n'existe pas, mais en réalité, ce qu'ils veulent dire est qu'ils ne les voient pas, que nous n'avons aucune responsabilité à son égard, que nous ne lui devons rien et pouvons, la conscience tranquille, agir comme bon nous semble. Je continue le texte. Et il ajouta, « Tu vas voir qu'ils commettent des abominations encore plus graves. » Il m'emmena à l'entrée de la porte nord du temple de l'Éternel et je vis des femmes assises là qui pleuraient la mort du dieu Tammuz. Verset 13 et 14. Ici, ce sont les femmes qui se rendent coupables d'idolâtrie. Elles sont assises, ce qui correspond à une attitude du deuil, et se lamentent bruyamment sur la mort du faux dieu Tammuz, qui s'appelle Adonis chez les Grecs et les Phéniciens. Il était particulièrement célébré à Byblos, en Phénicie. Dans la mythologie, ce beau jeune homme, aimé de Vénus, avait été tué par un sanglier sur les hauteurs du Liban. Ce mythe provient d'un phénomène naturel. En effet, près de Byblos coule une rivière qui descend du Liban et à la fonte des neiges, l'eau prend une teinte rouge, ce qui provient, dit-on, du sang de Tammuz. Ce dieu symbolisait le printemps dont la riche verdure était rapidement brûlée par l'ardeur du soleil d'Orient. Sa mort se célébrait en juin au moment du solstice d'été et revêtait un caractère funèbre. Des femmes, les cheveux épars, d'autres rasées, d'autres se meurtrissant la poitrine, erraient dans les rues comme si elles cherchaient quelqu'un. Ensuite, elles formaient une chapelle ardente en se tenant assises en cercle autour d'un catafalque sur lequel reposait un sarcophage destiné à recevoir la statue en bois peint qui représentait le corps de Tammuz. Il était ainsi pleuré pendant plusieurs jours, puis inhumé. Sa renaissance au printemps donnait lieu à des fêtes joyeuses et licencieuses. Ce culte idolâtre avait été adopté par les femmes israélites qui poussaient l'effronterie jusqu'à le célébrer à l'entrée même du temple de l'Éternel. Je continue. Et il me dit, « As-tu vu, fils d'homme? Tu verras encore d'autres abominations plus graves que celles-ci. » Il m'entraîna vers le parvis intérieur du temple de l'Éternel, et voici qu'à l'entrée de ce temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel, j'aperçus environ 25 hommes qui avaient le dos tourné au sanctuaire et se tenaient face à l'Orient. Ils se prosternaient en direction de l'Orient pour adorer le soleil. Verset 15. La troisième forme d'idolâtrie est le culte du soleil, et ce qui la rend si grave est l'identité des hommes qui la pratiquent. Pour commencer, ce sont des prêtres de l'Éternel, car eux seuls avaient accès à cette partie du temple. Mais le pire est que ce sont les chefs des 24 classes de prêtres établies par le roi David, avec à leur tête le souverain sacrificateur, aussi appelé grand prêtre. Ils sont tournés vers l'est pour adorer le soleil levant. Ce culte était évidemment interdit par la loi. La façade du temple étant orientée vers l'est, les prêtres ne pouvaient regarder en direction du soleil levant qu'en se tournant et en étant dos au temple. Une attitude qui correspondait que trop bien à leur état moral et spirituel. Je continue. Il me demanda, « As-tu vu, fils d'homme, la communauté de Juda estime-t-elle donc qu'il n'est pas suffisant de commettre toutes ces abominations auxquelles il se livre en ce lieu, Faut-il encore qu'ils remplissent le pays de leurs actes de violence et qu'ils reviennent sans cesse me provoquer? Regarde, les voilà qui élèvent le rameau jusqu'au nez. Verset 17. Cette pratique est liée au culte du soleil. Les Perses qui adoraient le feu et la lumière avaient coutume, en célébrant leur culte, de porter à la main une poignée de branches de l'arbre sacré. Ils mettaient alors ce bouquet devant leur bouche et s'en servaient comme d'une amulette pour éloigner les mauvais esprits. Une telle cérémonie païenne célébrée dans le temple représentait le degré suprême de mépris de l'Éternel. C'était comme lui faire un pied de nez. Pour cette raison, cette pratique est la dernière qui est citée. Je finis le chapitre 8. « À mon tour d'agir avec colère, dit l'Éternel, je n'aurai pas un regard de pitié et je serai sans merci. Ils auront beau crier à tue-tête vers moi, je ne les écouterai pas. » Verset 18. Le cumul des idolâtries babyloniennes, égyptiennes, phéniciennes et perses qui se donnent rendez-vous dans le temple même de Jérusalem justifie la sentence de jugement qui clôt ce tableau consternant. Il m'est facile de jeter la pierre aux Israélites coupables, mais entre vous et moi, je devrais d'abord la jeter sur mes propres idoles.